Philippe Bandel, tout et son contraire, l'intégrale.
Nathalie Arthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la candidate de Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle. Vous avez la lourde tâche de succéder à Arlette Laguiller. Elle s'est présentée à toutes les élections depuis 1974. Ça fait 31 ans, 31 ans de campagne. Est-ce que vous voyez faire ça jusqu'en 2043 ?
Moi, je suis sûre qu'il se passera des choses dans la société d'ici là, qu'il y aura des révoltes, qu'il y aura des insurrections peut-être. Voilà, j'en suis sûre. J'en suis sûre parce que je peux pas imaginer que la situation actuelle, avec le recul, avec toutes ces injustices, avec cette misère qui est imposée aujourd'hui à des millions et des millions de familles, il n'y ait pas de réaction.
Non, mais ce qu'on appelle une révolte, c'est une énorme révolte, c'est une insurrection, c'est-à-dire que ça va au-delà des urnes.
C'est une révolte comme celle de mai-juin 68, comme en 36, comme la France en a connu même avec la Commune de Paris. Oui, moi j'espère que un jour ou l'autre, il y aura des millions de femmes et d'hommes qui se diront ça suffit, on a assez enduré comme ça, on a assez trimé, on s'est laissé écraser pendant des années et des années, maintenant il faut qu'on prenne notre sort en main.
Justement, comment expliquez-vous que Lutte Ouvrière ou même les partis d'extrême gauche soient si bas dans les sondages alors que jamais le rejet du capitalisme n'a été aussi fort dans tout le pays, même chez des gens qui ne sont pas foncièrement des gauchistes et des révolutionnaires?
Parce que tout simplement, il y a une marge. Il y a une marge entre le fait de comprendre qu'on est dans une économie qui est absurde. Qui est absurde parce que, bon, on sait qu'elle est inégalitaire, qu'elle est injuste, mais en plus, on voit qu'elle est absurde. Si on est dans cette crise, ce n'est pas parce qu'il manque des richesses, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de produire, c'est au contraire parce qu'il y a trop de richesses et trop d'argent à un pôle de la société. Donc ça, je crois que beaucoup le comprennent, le voient.
Tout à fait autre chose, j'aime beaucoup une des mesures de votre programme, la répartition du travail entre tous sans perte de salaire.
Oui, sans perte de salaire.
Je me dis, mais c'est trop bien, comment ils ont été assez bêtes pour ne pas y penser avant? Comment vous, c'est possible?
Oui. Ah, c'est pas de la bêtise, ça, vous voyez, c'est de l'intérêt financier pur. Voilà, et c'est là que justement on voit qu'on est dans une société complètement dingue et qui est dominée finalement par la rapacité de quelques-uns. Parce que le bon sens, ce serait ça. Le bon sens, ce serait ça. Ce serait au lieu de surcharger de travail ceux qui ont un boulot et de condamner au chômage 4,5 millions de personnes, les condamner à l'inactivité et donc à la misère, et bien il faudrait, oui, répartir le travail. Ce serait ça la logique des choses. Mais le problème, c'est que pour faire cela, il faut aussi partager les profits. Voilà, il faut aller prendre dans les profits et il faut imposer à PSA, ArcelorMittal, à tous ces grands groupes qui n'en ont jamais assez, d'en rabattre un petit peu sur ce qu'ils versent aux actionnaires et d'en mettre plus pour les embauches.
Non mais là, ça peut s'entendre pour des entreprises comme Total qui gagnent des milliards d'euros, mais la petite PME de Vaux-en-Velin, comment elle va faire pour répartir, donner la même somme à tout le monde, même ceux qui ne travaillent pas, comment c'est possible?
Non mais justement, moi je pense qu'il faut recenser d'abord les besoins qu'il y a dans la société. Je crois qu'il y a à embaucher, effectivement, dans beaucoup d'entreprises, vous savez, les cadences sont insupportables. Et les gens, non seulement ils passent leur vie au boulot, mais en plus ils y laissent leur santé. Et effectivement, qu'on demande les embauches en correspondance. Mais de la même façon, dans les services publics, on pourrait aussi embaucher. Alors bon, moi je crois qu'en réalité, il y a l'argent pour ça.
Juste un mot, vous êtes professeur. François Hollande a promis de créer 60 000 postes en plus. Nicolas Sarkozy dit que c'est une pure folie. Qui a raison?
Non mais voilà, pure folie. Alors vous vous rendez compte? C'est quand même fou, quoi. Moi je crois que le degré de civilisation d'une société se mesure justement au nombre d'enseignants, au nombre de professeurs, au nombre d'infirmières, d'aides-soignants, à la poste, au service public. C'est à ça qu'on mesure le niveau de civilisation et de développement d'une société. Et Nicolas Sarkozy se vante parce qu'il a supprimé des enseignants, alors qu'on sait très clairement que ça, c'est sacrifier l'éducation dans les quartiers populaires.
Pardon, je vous interromps, vous allez me dire 60 000 emplois créés, c'est encore pas assez.
Moi, je pense qu'il faut reconstruire ce que Sarkozy a démoli et on aura quand même supprimé 80 000. Et en plus, il faut encore une fois recenser les besoins. Et dans les quartiers populaires, oui, il y a besoin de travailler en petits groupes, de s'occuper de chacun, et y compris ceux qui ont des difficultés, qui ne sont pas dans le moule. Et ça, ça demande effectivement des emplois.
Nathalie Arthaud avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.
Philippe Bandel, tout et son contraire, l'intégrale.
Nathalie Arthaud avec nous, candidate de Lutte Ouvrière pour l'élection présidentielle. Un mot sur votre personne, je veux dire pourquoi je vous pose la question, car dans chaque article sur vous, écoutez, je l'ai vu 10 fois dans 10 articles différents, la presse ne manque pas de relever les similitudes entre vous et Arlette Laguiller, et à chaque fois il est écrit, vous avez la même coupe de cheveux, est-ce que c'est important à ce point?
Ça
je vois à votre tête que vous êtes consterné comme moi.
Ça me fait rire. Ça me fait rire. Bah d'abord, je trouve les journalistes pas très physionomistes, déjà. Bon, voilà. Et par ailleurs, s'il y a des similitudes, c'est effectivement au niveau des convictions, au niveau de la révolte, au niveau des perspectives de changer la société. Je crois que je suis animée, évidemment, par les mêmes...
Ah non, mais ça, ils le disent. Mêmes... Alors, il n'y a pas de souci.
Tout ça, ça se mélange. Hein, tout ça, ça se mélange. Bon, bah écoutez, moi, ma coupe de cheveux, elle, vous savez, elle évolue de jour en jour. Et elle change tous les mois. Alors bon...
Je reviens à la comparaison avec Arlette Laguiller. La Croix relève même... Je les cite, le même engagement total dans le parti trotskiste pour ces deux célibataires sans enfants. Est-ce que ça compte de n'avoir pas d'enfants en politique ?
Ah non, je crois pas. Non, ça, c'est des choix qui sont individuels. Voilà, c'est des choix qui sont individuels et puis qui sont le fruit aussi des aléas de la vie.
Mais
tout simplement.
Ma question était plutôt, auriez-vous pu être désignée candidate si vous avez eu des enfants ?
Ah, je pense que oui. Mais faut-il encore avoir la disponibilité ? Moi, je sais que beaucoup de dirigeantes politiques ont des enfants, mais je sais aussi qu'elles ont souvent quelqu'un pour s'en occuper. Et que c'est difficile pour les femmes qui doivent tout faire, le boulot, les enfants, s'occuper des enfants, s'occuper de faire à manger, s'occuper du foyer. C'est difficile aussi d'avoir un engagement militant, que ce soit syndical, que ce soit politique. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce qui explique que oui, il y a moins de femmes qui sont disponibles pour prendre des responsabilités dans les partis et dans les syndicats. Ou en tout cas, elles le sont, mais quand elles ont 45, 50... Enfin, quand les enfants sont plus grands. Voilà, ça, c'est un constat.
Tout à fait autre chose. Vous êtes professeur, agrégé. Vous étiez prof dans une banlieue lyonnaise, à Rieux-la-Pape. Et vous avez demandé votre mutation pour un établissement à Aubervilliers, dans le 9-3. Est-ce que c'est un choix militant ? Parce qu'en général, quand on est agrégé, on est mieux traité, ses desiderata sont écoutés. Est-ce que c'est un choix militant ou est-ce que c'est tout ce qu'on vous a proposé, Aubervilliers ?
Mais écoutez, d'abord, ce n'est pas une punition. Ouais. Hein, de travailler à Aubervilliers, au lycée Le Corbusier. Et j'aime mon métier et j'aime travailler justement, y compris dans les quartiers populaires. Et j'ai envie de donner tout ce que je peux effectivement à mes élèves. Et par ailleurs, oui, j'ai demandé ma mutation du fait de mes responsabilités nationales. C'est sûr que c'était plus facile.
Oui, mais ma
moi.
Question était, en général, les agrégés, on les met dans un bon lycée à Paris, dans le centre, ou un beau lycée à Lyon.
Non, mais j'ai été affectée, effectivement, ici. Mais c'était y compris... j'avais demandé, oui, la Seine-Saint-Denis.
Donc, c'est vous qui avez demandé la Seine-Saint-Denis.
En fait, vous savez, même quand on demande, par exemple, l'Académie de Paris... C'est une question de points, d'ancienneté, etc. Tout simplement, je n'étais pas sûre de l'obtenir. Par contre, j'étais sûre d'obtenir la Seine-Saint-Denis. Et j'y avais déjà travaillé. Parce que quand j'ai effectivement réussi les concours de prof, mon premier poste, ça a été Saint-Denis. Et mon deuxième, ça a été Épinay-sur-Seine, où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et puis, c'est un département que je connais bien. Et d'ailleurs, où j'habite également désormais. Et voilà, moi, j'ai toujours vécu dans les quartiers populaires. C'est ma vie, c'est mon milieu, c'est... Voilà.
Mi-février, Nathalie Arthaud, un sondage vous a désigné deuxième candidate la plus sexy derrière Dominique de Villepin. Ça vous inspire quoi ? Deux questions. D'abord, le résultat, et deux, ce genre de sondage.
Ça me fait à peu près aussi rire que ma coupe de cheveux, voilà.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, et qu'est-ce que... Bon, voilà, l'élection présidentielle, c'est pas un concours de beauté. D'autres l'ont dit avant moi, voilà. Je trouve ça risible, voilà. Bon, et je sais pas, il va y en avoir peut-être d'autres sondages, là, de ce type-là. Je sais pas ce qui va être inventé. Honnêtement, je m'attends au pire. Hein.
Nathalie Arthaud, avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure.
Philippe Vandel, tout et son contraire, l'intégrale.
Nathalie Arthaud avec nous, candidate de Lutte Ouvrière à l'élection présidentielle. Vous avez été désignée porte-parole de Lutte Ouvrière en mars 2009. Est-il vrai que seules les femmes pouvaient concourir ?
Mais pas du tout, mais... C'est pas un concours d'abord, c'est pas un concours.
Article de Libération, le 6 mars 2009, il y avait 6 femmes en lice, exclusivement des femmes, dit Libé.
Non mais vous savez, dans cette campagne présidentielle, j'ai un porte-parole qui est assez connu, qui commence à se faire connaître, en tout cas j'espère, parce qu'après on va encore nous dire qu'on est secret. Hein. Jean-Pierre Mercier, qui travaille à Peugeot Citroën et qui est sollicité, qui est un petit peu... Donc, c'est un homme, vous voyez, voilà.
Donc ça, c'est faux, l'info.
Il y a évidemment aussi toute une série de porte-parole hommes, y compris dans la région parisienne, y compris dans le pays, et qui font partie de mon équipe de campagne.
Non,
je pense à Éric Pecker, etc. Maintenant, pour une candidate à la présidentielle, c'est vrai qu'on avait... On a on a fait le choix de, encore une fois, de choisir une femme. Hein, on a décidé, encore une fois, de choisir une femme, oui, parce que là, on y est attaché. Parce qu'on pense qu'y compris, voilà, Arlette Laguiller, c'était la première femme à l'élection présidentielle. Et on reste attaché à ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on pense que c'est un combat qui est encore à mener, où il faut encore faire un certain nombre de démonstrations et montrer qu'on s'applique à soi-même ce qu'on pense, nos principes.
Votre papa était garagiste. Qu'est-ce qu'il vous en reste? Est-ce que vous savez faire de la mécanique?
Non, il ne m'en reste pas, mais j'aime beaucoup bricoler, ça c'est sûr.
Vous avez fait sport-études aussi? Quelle discipline?
En volley-ball, voilà, j'en garde un bon souvenir, c'est vrai.
Vous étiez allé jusqu'à quel niveau?
Oh, je ne suis pas allé loin, et puis de toute façon, pour moi, c'était le plaisir. C'était vraiment le plaisir, après les cours.
Quand on fait sport-études, c'est plus que le plaisir.
Ah non, c'est complètement du plaisir.
Ah bon ?
C'est complètement du plaisir. Justement, vous savez, le volleyball, c'est autre chose. On n'est pas là dans des carrières professionnelles où on sait qu'il y a des millions à la clé. Hein. Vous savez, aucun volleyeur n'est payé au salaire de Beckham ou de Ribéry. Ou, non. Donc, moi, pour moi, c'était le plaisir complet, effectivement. Puis un sport collectif où, franchement, il y a beaucoup de chaleur. Et j'en garde des très, très bons souvenirs.
Paris Match est venu chez vous. Est-il vrai que chez vous, les romans sont rangés dans le salon et les classiques du marxisme sont planqués dans votre chambre qui fait office de bureau?
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que justement ma chambre, bon, c'est un peu mon bureau et donc j'aime bien avoir tout sous la main. Et puis dans le salon, bah, c'est plutôt l'évasion, oui, les romans. Oui.
Est-il vrai que quand vous fêtez votre anniversaire, il n'y a que des adhérents de Lutte ouvrière?
Non, d'abord, fêter mon anniversaire, c'est pas non plus pour moi incontournable. Hein. Voilà. J'accepte les dizaines, mais sinon les autres anniversaires, non, mais par contre mes amis, c'est vrai, mes proches, et c'est vrai que...
Ils sont tous à Lutte ouvrière.
Beaucoup sont à Lutte ouvrière. Bah écoutez, c'est évident quand on partage des convictions comme ça, de changer la société, d'inventer un autre avenir pour toute la société, ça rapproche, hein, ça c'est sûr.
Est-il vrai que beaucoup de gens vous confondent avec la navigatrice Florence Artaud?
Oui, c'est vrai. J'espère qu'elle sera pas trop... que ça la dérangera pas trop. Bon, parfois, effectivement, dans la rue, on m'appelle Florence, mais en même temps, on me situe. Voilà, c'est Lutte ouvrière, voilà, on me situe. J'espère qu'elle n'aura pas de... Elle ne subira pas trop d'inconvénients du fait de cette homonymie.
Est-ce que parfois votre engagement politique vous a porté préjudice dans votre vie de tous les jours ou dans votre vie professionnelle?
Non, pas du tout. Et c'est vrai que, y compris Arlette Laguiller m'en a parlé, elle m'a expliqué, oui, mais évidemment, après, on est plus reconnu dans la rue, mais jamais elle a eu à en souffrir. C'était davantage des saluts fraternels, des sympathiques. Hein. Et en fait, c'est ce que je constate aussi. Vous savez, moi, voilà, je vis au milieu des miens, au milieu des travailleurs, voilà. Et quand même, la politique que je défends, ils s'y retrouvent quand même, ils s'y reconnaissent. Et non, c'est plutôt de la sympathie et de la bienveillance, finalement, qui m'entoure.
Merci, Nathalie Artaud, d'être venue nous voir.
Je vous remercie.
À bientôt et bonne route.
Merci.